À l'heure des états généraux de la bioéthique et en particulier des débats qui concernent la PMA, procréation médicalement assistée, et la GPA, gestation pour autrui, on peut s'interroger sur la notion de famille, qui ne saurait être réduite à un slogan. Vous savez le slogan, cette formule concise et frappante qui s'érige sur un panneau, qui se crie dans la rue, cette forme de discours qui a tendance à figer autant qu'à afficher, avec tout ce qu'il peut y avoir de réducteur et de violent, comme on l'a tous vu ou entendu il y a 5, 4 ans. Qui détruit la famille, menace la paix civile. Famille de France, ne laissez pas l'État devenir les parents de vos enfants. Stop à la familiphobie. J'en passe et des pires. Ces slogans qui, dans leurs allures de publicité, allaient essentiellement à l'encontre de la pensée, de la nuance, de la complexité. Ces phrases si lapidaires qu'on se les prenait littéralement comme des pierres. Ces cris de guerre qui refusaient qu'on entende le mot famille autrement que de la même façon, immuable, immobile, comme si rien dans la société n'avait changé. Qu'est-ce que c'est la famille pour vous ? Comment répondre par trois mots, par une théorie, par telle ou telle norme aujourd'hui ? Comment ne pas la penser, la famille, par interrogation plutôt que par slogan ?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un écrivain qui s'intéresse aux questions de la famille et de la parentalité, tout comme elle explore celle du désir, du genre et de la sexualité. Vous avez peut-être lu son livre Une partie rouge, paru en septembre. Son nouveau livre Les Argonautes vient de paraître dans une traduction de Jean-Michel Théroux. Et c'est l'une des sensations de cette rentrée littéraire et intellectuelle de janvier. Elle y raconte une histoire d'amour, mais aussi celle d'une double transformation du corps. La sienne, liée à sa grossesse, et celle de la personne qu'elle aime qui change de sexe. Bonjour Maggie Nelson.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. C'est quoi une famille pour vous ?
I think a family is defined by love.
Une famille, c'est d'abord de l'amour. Et aux États-Unis, on utilise l'expression famille choisie. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. Bon, bien sûr, il y a la famille originelle, celle dont on est issu. Mais notamment dans le milieu queer et LGBT, on parle beaucoup de famille choisie. Si la famille dont on vient est défaillante ou qu'elle vous rejette, bon, on se choisit une famille. Et mon livre, Les Argonautes, parle aussi de ces familles intellectuelles. Je crois qu'il y a mille et une manières de former une famille.
Et c'est cette pluralité qui fait l'intérêt de ce livre, effectivement. Vous savez, la question de la famille s'est imposée dans le débat intellectuel dans le monde entier. Mm-hmm. Et la France est encore aujourd'hui préoccupée par les questions de la PMA et de la GPA. Pourquoi est-ce qu'elles font tant débat ? Qu'est-ce qui se joue ? De quoi on parle, au juste ?
Oui,
mais je ne sais pas exactement ce qui est en jeu. Ça m'intéresse de comprendre. Si le débat porte sur le fait que, bon, ben, est-ce que ça, c'est une famille ou est-ce que, sur le plan moral, c'est acceptable ? Pour moi, toutes ces questions sont réglées depuis longtemps. Le seul aspect de la question qui prêterait à controverse, à mes yeux, ce serait le côté écologique, la démographie, encore plus d'habitants sur Terre, mais ça n'a rien à voir avec la nature des gens qui ont ces enfants.
Ce désir d'enfant et aussi celui de voir son union reconnue par l'institution du mariage, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de la manière dont se vit l'homosexualité aujourd'hui ?
Well, it's funny because the Argonauts...
C'est drôle, oui, j'ai écrit Les Argonautes sous l'ère Obama. Alors les questions que je pose dans ce livre, on les regarde différemment aujourd'hui parce que quand on connaît de grandes avancées pour une communauté, ce qu'on va perdre, c'est ce qu'il y a de plus radical, ce qui est anti-establishment. Et le progrès des droits civiques, l'histoire nous l'a appris, n'est pas un progrès linéaire. Et maintenant, on vit une époque complètement différente. Alors ce livre résonne aujourd'hui différemment. Mais en tout cas, aux États-Unis, depuis 10 ou 20 ans, il y a eu beaucoup d'avancées. La loi autorise maintenant les couples homosexuels à avoir des enfants. Alors bien sûr, il y a des personnes dans la communauté gay qui sont anti-procréation et ça ne les intéresse pas d'adhérer au culte de l'enfant.
C'est ça qui est intéressant au sein, effectivement, des communautés homosexuelles qui se disent queer, c'est-à-dire résistant à tout ce qu'impose l'hétérosexualité. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe à se revendiquer queer tout en aspirant à un modèle de vie pour ainsi dire calqué sur le modèle hétérosexuel.
Yeah, I don't see it quite that way.
Oui, je ne vois pas ça tout à fait comme ça. On peut, si on voit la famille comme une matrice essentiellement hétérosexuelle. Mais là, on ne parle même pas du futur, de l'avenir. Déjà, aujourd'hui, dans le présent, dans le passé, beaucoup d'enfants ont été élevés par leurs grands-parents, des familles multigénérationnelles ou des familles monoparentales. Il y a toutes sortes de formes de famille. Donc, le spectre de cette famille homosexuelle, en fait, cette situation est vécue par beaucoup de gens déjà aujourd'hui.
Toute expérience corporelle peut être nouvelle et étrange, rien de ce que nous faisons dans la vie ne doit avoir un couvercle enfoncé dessus, et aucun ensemble de relations et de pratiques n'a le monopole de la prétendue radicalité ou de la prétendue normalité. C'est ce que vous écrivez, page 119, Maggie Nelson, de votre livre Les Argonautes. Comment on fait pour se libérer d'un système de normes sans, dans un second temps, s'enfermer dans un autre système ?
Je ne crois pas qu'on puisse s'affranchir de toute normalité. Mais je pense qu'on peut créer une société qui ne punisse pas ceux qui s'écartent de la norme. Je vois la manière dont la maternité se calque parfaitement aux structures hétérosexuelles, mais ce n'est pas inhérent à la maternité, à mon avis.
Il est où le queer aujourd'hui, Maggie Nelson ?
Je ne sais pas, on me dit qu'il n'y a pas d'équivalent au français du mot queer, c'est intéressant. Mais j'évoque ça dans le livre, queer ça veut dire différentes choses pour des différentes personnes. Pour certains, c'est un mot dépassé, mort, pour d'autres, ça désigne quelque chose de plus radical, de plus ouvert. Il ne s'agit pas uniquement de l'objet de vos désirs, mais davantage d'une attitude de résistance à la normalité. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est emparé de ce mot, on l'utilise un peu à tort et à travers.
Devenir mère, c'est queer ?
Bien sûr, tout peut être queer.
Si je vous parle de maternité, Maggie Nelson, c'est que votre livre Les Argonautes contient des passages absolument saisissants et inédits sur l'expérience de la grossesse et de l'accouchement, comme on en a rarement lu. Est-ce que vous diriez que la maternité, qui est pourtant constamment célébrée, encouragée, sacralisée dans nos sociétés, elle reste un tabou?
Oui, tout à fait. Vous savez, je suis quelqu'un de très littéraire, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai étudié la littérature toute ma vie, j'ai plein de livres chez moi, et quand j'étais enceinte et que j'ai cherché dans ma bibliothèque un récit de maternité, à la première personne, j'en ai trouvé un et demi, un en prose, un en de la poésie, que j'ai pu trouver sur mes étagères parmi des milliers de livres. Et je lis la littérature féministe, donc ça montre qu'il y a une vraie lacune là.
Comment vous expliquez ça ?
Une tradition littéraire dominée par les hommes, le fait que beaucoup de femmes, pour devenir écrivains, devaient renoncer à la maternité parce qu'elles ne pouvaient pas se faire aider. Et si vous pondez 8 bébés, enfin, ou du moins entre 1 et 8 bébés, vous n'avez pas le temps d'écrire. Bien sûr, il y a quelques rares exceptions, mais c'est vraiment impressionnant. Jusque dans les années 60, quand on regarde toutes ces grandes figures de la littérature, d'Emily Dickinson à Gertrude Stein, tous ces écrivains étaient des ermites ou gays, sans enfants. Il n'y avait pas de modèle autre. Il y a là une vraie lacune historique encore. Et puis, il y a la question de la famophobie. J'ai lu beaucoup de récits écrits par des hommes sur l'accouchement de leur femme ou de leur compagne. Mais ce sont le plus souvent des récits littéraires plutôt que des témoignages à la première personne.
Vous dites dans Les Argonautes, Maggie Nelson, qu'une femme enceinte est considérée dans l'espace public comme quelque chose d'obscène. C'est le mot que vous employez, obscène. Alors je me pose la question, qu'est-ce que vous trouvez obscène, vous ?
Politics ?
La politique ?
Donald Trump ?
Donald Trump ?
Pourquoi obscène ?
Je ne sais pas, mais pour moi, le mot obscène a souvent une connotation positive. Une personne qui avait lu mon livre m'a dit « Oh, j'ai de la peine pour vous si vous pensez que vous avez une sexualité perverse ». Et j'ai dit « Mais non, la perversité, c'est un mot positif pour moi ». Mais bien sûr, il y a des choses qu'on dit obscènes qui sont horribles et le mot lui-même désigne quelque chose de révoltant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses révoltantes dans le monde.
Celle qui est obscène dans cette émission, et on s'en réjouit, c'est la culture et son actualité scandaleuse et dévergondée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 26 janvier ?
podcast mes ciné à l'heure.
Le ciné ne perd pas le nord à Arcachon, car c'est aujourd'hui que débute la 8e édition du festival Ciné sans frontières, qui propose un focus sur la production des pays nordiques, avec notamment Oslo 31 août de Joachim Trier ou L'autre côté de l'espoir d'Aki Korismäki. Mais jusqu'au 4 février, l'événement programme aussi près d'une cinquantaine de films venus de 23 pays différents, des paysans. Polar lyrique dimanche dans le cadre du Festival international de la BD d'Angoulême. L'espace Polar SNCF accueillera les musiciens de l'Orchestre national de Radio France qui reprendront les plus célèbres thèmes de nos polars préférés. Ça donne quoi ? Psychose au violoncelle, Virgin Suicides à la contrebasse ou Basic Instinct au violon ? Forcément que du bon quand ça vient de la maison. Et surtout, sors Chalandon compte sur vous, car l'ancien grand reporter et auteur du Quatrième Mur est le parrain de la 27e édition du grand concours d'écriture de nouvelles proposé par le festival Étonnant Voyageurs, ouvert à tous et à toutes, de 11 à 18 ans. Le concours propose de réfléchir cette année sur le thème « Dire la guerre ». Les copies sont à rendre avant le 23 février sur le site du festival Étonnant Voyageurs. N'oubliez pas, jeune, sors Chalandon compte sur vous.
Regardez-la danser. Quand elle s'approche du ring.
Dieu merci, c'est vendredi. Alors on monte le son et on sourit, car aujourd'hui dans les bacs, on se languit d'amour chien fou. Le double album romantique et poétique d'Arthur H., notre invité de mercredi dernier, dont on est tous mordus. On joue Les Affranchis avec le rappeur Sofiane, qui quand il ne bloque pas des autoroutes, sort son très attendu deuxième album. Et sinon on dit Banco Banco au Marble Skies de Django Django. Et ça, c'est bueno bueno. L'intellectuelle poétesse et écrivain Maggie Nelson, invitée de Boomerang ce matin pour Les Argonautes, un livre où vous parlez de corps qui changent, qui évoluent, qui vivent. Le vôtre, on en a déjà un petit peu parlé, mais aussi celui de la personne que vous aimez, qui est née Wendy et qui commence un traitement à la testostérone au moment de votre grossesse pour devenir Harry. La réattribution sexuelle ou même la transidentité, comment est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont perçues aujourd'hui ?
Oui, c'est vrai que le livre parle de ça. Mais je dois préciser, parce que j'ai un peu lu la presse française, que mon compagnon ne s'identifie pas comme une personne transsexuelle ni comme un homme. Donc le livre parle plutôt de ce troisième espace pour ceux qui ne s'identifient ni comme une femme ni comme un homme. Donc ces expressions, réattribution sexuelle, mon compagnon ne s'identifie pas. C'est vrai que ça nous rappelle. Amène à votre question de tout à l'heure, comment changer de narration, de point de vue. Beaucoup de gens se satisfont d'une sexualité binaire. Et on assiste à des développements positifs sur le plan des droits des trans et les transgenres. Mais on connaît parfois des reculs, par exemple avec les enfants, on leur explique « Ah oui, une personne d'un autre sexe peut aller dans les toilettes de l'autre sexe, etc. » Donc il ne s'agit pas juste de réécrire le scénario, mais de faire de la place pour ces gens.
Être un homme, être une femme, quel sens est-ce que ça a pour vous ?
Dans le monde de la théorie queer, ces deux termes seraient complètement détachés du sexe biologique. Alors on peut avoir une masculinité féminine, une féminité masculine, nul besoin de préciser que quelqu'un est gay, tout est vu de manière beaucoup plus vaste. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui s'identifient avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. On les appelle les cisgenres et s'ils sont contents, c'est très bien. Mais il y en a d'autres que ça ne satisfait pas et tous cohabitent sur la planète.
Ce qui est intéressant, effectivement, dans ce que vous dites, c'est que la finitude, la fixité sont envisagées comme quelque chose d'enviable ou d'obligatoire. Qu'est-ce qui fait peur dans le trouble ?
Apparemment, les cisgenres peuvent être animés de pulsions meurtrières. On l'a vu à toutes les époques. Judith Butler a beaucoup écrit là-dessus. Une question qui, en surface, peut ne pas sembler étrange si on est habitué à ce système punitif et meurtrier. Mais en fait, c'est étrange que l'expression d'un genre que l'on choisit déclenche une rage meurtrière. C'est vraiment étrange. Et tout cela converge toujours vers le patriarcat, la misogynie et tous les préjugés, l'homophobie. le besoin de punir l'homme efféminé, le besoin de punir la femme masculine, alors que toutes les lesbiennes ne sont pas masculines et tous les gays, tous les homosexuels ne sont pas efféminés.
De quoi vous avez peur, vous ?
Je vous le disais, je lis beaucoup de livres sur l'écologie et j'ai peur, oui, j'ai deux jeunes enfants. Vous savez, le soir des élections, ce moment horrible, on était nombreux à pleurer. Parce qu'on savait que notre pays, notre grand pays, s'apprêtait à causer des dommages irréversibles à l'environnement. Et ça, ça m'inquiète beaucoup quant à l'avenir. Mais bon, je suis aussi curieuse de voir ce qui va se passer après. Vous savez, il y a les deux côtés, l'espoir et la peur qui vont ensemble. Et rester avec ce trouble, c'est garder l'esprit ouvert, je crois.
On en revient toujours au trouble, Maggie Nelson. Et ce qui est passionnant pour revenir à cette question du trouble, c'est que votre livre, dans sa forme, entre l'essai et l'autofiction, mais aussi dans sa langue, il a quelque chose d'indéterminé et en ce sens de novateur. Quand est-ce que vous avez compris que l'exploration de l'intime allait être au centre de votre démarche d'intellectuel et d'écrivain, qu'il allait constituer le cœur de votre matière ?
J'ai grandi avec la poésie, dans la poésie. J'ai toujours écrit des poèmes assez intimes. Et mon poète préféré, Paul Celan, il privilégie l'adresse du je et du tu. Mais je crois que j'ai écrit 5 livres qui ne sont pas de la fiction et aucun n'est autobiographique. Donc certains le sont, d'autres non. J'ai écrit un livre sur les femmes peintres dans les années 50, un autre sur la cruauté et la violence dans l'art, mais ça, ce sont des textes universitaires. Donc je fais l'aller-retour, ce n'est pas toujours autobiographique. Mais pour Les Argonautes et La partie rouge et Bleuet qui va sortir, ce sont tous des textes autobiographiques.
Et pourquoi partager l'intime, précisément, Maggie Nelson ? Quelle est la force de l'intime ?
Comme je vous le disais, parfois c'est l'intime qui s'impose, qui convient, et parfois non. Donc je parlais de ce livre, L'art de la cruauté. J'ai commencé sur un ton très personnel et puis ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai arrêté. Les Argonautes, c'était l'inverse. J'ai démarré sur un ton très théorique et puis il m'est apparu très vite que j'ôtais de la force à ce livre si je n'ajoutais pas un témoignage, mon témoignage. Parce que c'est un livre qui parle des corps, qui parle d'expériences vécues dans la chair. Au début, je voulais l'appeler « involution », mais je n'ai pas pu parce que c'était un peu un terme deleuzien, même si je ne l'entends pas comme lui. Mais pour moi, ce mot, ce qu'il signifiait, eh bien, c'était ce désir de regarder de l'intérieur vers l'intérieur. Ne pas être à l'extérieur pour voir au-dedans, ne pas être à l'intérieur pour voir au dehors, mais regarder l'intérieur depuis l'intérieur, ce qui est vraiment l'expérience de la grossesse. On se tourne vers l'intérieur pour essayer de comprendre, de voir ce qui se cache, ce qui se passe dans nos entrailles cachées.
Il y a des choses que vous ne dites pas, des choses que vous gardez pour vous.
Oh, yeah. 99%.
99%.
Alors on va s'en parler, on va s'exprimer même, parler de tout ce qui se tait juste après un moment d'intimité. Coco Rosie, en 2004, sur ce si bel album qui s'appelait La maison de mon rêve, ce titre comme une chanson d'amour parce qu'il est question d'amour dans Les Argonautes. By Your Side, vous êtes sur France Inter avec Maggie Nelson, vous écoutez Boomerang un vendredi matin.
Best girl you'd ever meet. diamond rings. I do these kind of things. I'll scrub your floor. Never be a bore. I'd tuck you in. I do not snore. I'd wear your black eyes. Bake you apple pie. I won't ask why. I'd try not to cry.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Entre nous, si je devais organiser un dîner boomerang avec un invité par mois, ben je crois que j'en ferais une habituée en fait. Il n'y a qu'à la regarder, vous savez, pour être immédiatement saisi par l'envie d'en faire sa meilleure amie, sa besta, sa pinko ou autre BFF. On s'imagine bras dessous, aller chez le charcutier, chez le roi Merlin ou au marché. Avec Maggie, tout va bien. Elle a, vous ne serez pas étonné, un chemisier à pois, la romancière et intellectuelle poétesse Maggie Nelson, invitée donc de Boomerang ce matin pour Les Argonautes, enfin traduit en français, et sur notre liste de lecture JDD France Inter cette rentrée d'hiver. Les Argonautes, ce livre où vous ne parlez pas que de ce qu'on pourrait appeler des sujets de société ou des questions intimes et collectives, mais aussi peut-être surtout de langage, de mots. Est-ce que pour vous, l'écriture permet de tout exprimer ?
Non,
mais je cite Wittgenstein au début de mon livre, quand il dit « l'inexpressible, ce qui ne peut être exprimé, est contenu d'une manière inexpressible dans l'exprimé ». Et c'est ce qu'on peut faire avec l'écriture. Vous me demandez si j'ai tout mis dans mon livre. La réponse est non, mais il faut montrer les espaces vierges et suggérer ce qui n'est pas là de manière évidente. Vous savez, il suffit de montrer la Lune du doigt et on n'est pas obligé d'être sur la Lune ni d'expliquer la Lune.
Certains disent effectivement, et par certains je veux dire Harry Dodge, la personne qui partage votre vie, à qui vous adressez cette lettre qu'est Les Argonautes, que les mots ne suffisent pas.
Yeah, I mean it's a little bit of a... Some people have misunderstood the book.
Oui, je crois que là, certaines personnes ont mal compris. Dans mon livre, ils ont conclu que c'est un homme de peu de mots. Or, il peut être très loquace. D'ailleurs, j'ai incorporé certains de ses écrits. Mais Harry est avant tout un sculpteur, un artiste plasticien. Parfois, il utilise des mots, des monologues. Mais généralement, il s'agit de formes abstraites, quelque chose de très visuel. Donc il est plus à l'aise que moi avec ce qui s'exprime hors les mots, alors que moi, je ne sais m'exprimer qu'à travers les mots.
Avoir quelqu'un à qui s'adresser, Maggie Nelson, quand on écrit, qu'est-ce que ça a changé dans votre façon d'envisager l'écriture ?
I don't think writing is the best way to address somebody close to you.
Je ne pense pas que l'écriture soit le meilleur moyen de s'adresser à quelqu'un qui vous est proche.
I often write that way to get something
même
out.
Si souvent j'écris comme si je m'adressais à quelqu'un pour créer cette dynamique, mais maintenant mon livre vit sa propre vie, a sa propre relation au monde. Et ce genre d'adresse, non, ce n'est pas la manière dont je m'adresse à Harry, ou plus maintenant. Peut-être dans le passé, j'écrivais pour lui des passages.
Mais avant, vous écriviez à qui ? Vous écriviez pour qui ?
My books have different addresses, so I think.
Je crois que mes livres ont plusieurs destinataires différents, et certains n'ont qu'un destinataire d'ailleurs. Dans Bluet, qui va sortir plus tard dans l'année, ce livre est écrit pour un amour absent qui m'a quittée et qui a disparu. Bon, c'est le thème le plus ancien depuis la naissance de la poésie, Apollon et Daphné, etc. On s'adresse à ce qu'on ne peut pas avoir. Mais avec ce livre, c'est différent parce que maintenant j'ai Harry dans ma vie. Et puis par ailleurs, c'est un homme discret, donc écrire une lettre très publique ou discursive, ça aurait été une imposture.
Est-ce que vous diriez pour autant qu'aujourd'hui écrire Maggie Nelson, c'est devenu un acte d'amour pour vous ?
It can be, but it can
oui,
be,
ça peut l'être, bien sûr. mais c'est aussi un acte de trahison. C'est aussi un acte égoïste et intéressé. C'est beaucoup de choses en même temps, mais comme l'amour.
L'amour, vous en donnez une définition absolument saisissante. Dans le livre, vous écrivez « Je sens que je peux tout te donner sans jamais me perdre moi-même ». Se perdre par amour, dans l'amour, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, au juste ?
Ça
peut prendre différentes formes. Et avec ce livre, vous savez, je me suis déjà perdue, je me suis déjà donnée, abandonnée complètement. Et puis tout amour véritable peut vous donner l'impression que la frontière entre soi et l'autre s'est effacée ou qu'on se désintègre ou qu'on est arraché à soi-même. Et sur le plan existentiel, c'est à la fois euphorisant et terrifiant. Mais ce que j'essayais d'exprimer là, c'est que, je crois que j'ai un peu grandi depuis cette époque où on donne tout. Et puis après, on est sans plus aucune amarre et on n'a plus aucun pouvoir de séduction pour l'autre. On n'est plus qu'une flaque par terre, on a perdu tous ses repères. Mais heureusement, Harry et moi, quand on s'est rencontrés, on était pleinement adultes. On sait qu'on pouvait vivre l'un sans l'autre, mais on préfère vivre avec l'autre.
Mais comment on fait pour écrire sur l'amour, Maggie Nelson, pour dire ce qui n'a pas déjà été dit ?
Mais oui, tout a été dit, bien sûr, ça ne me dérange pas. Je ne me focalise pas vraiment sur le contenu, sur le fond. Bon, c'est curieux parce qu'on parle beaucoup du fond. Mais je suis assez formaliste dans l'écriture. Et je m'oblige à me concentrer sur un contenu peut-être difficile d'accès en m'attachant à la forme et aux phrases. Et quand on procède ainsi, on se fiche pas mal de la nouveauté, on veut juste faire un bon livre.
J'aimerais lire un extrait, si vous voulez bien, du tout début de votre livre « Les Argonautes ». Un jour ou deux après ma déclaration d'amour, transi, tant j'étais vulnérable, je t'ai envoyé le passage de Roland Barthes par Roland Barthes, où il compare celui qui prononce la formule « je t'aime » à l'argonaute renouvelant son vaisseau pendant son voyage sans en changer le nom. Tout comme les pièces de l'argot peuvent être remplacées à travers le temps, alors que le bateau s'appelle toujours argot, chaque fois que l'amoureux prononce la formule « je t'aime », sa signification doit être renouvelée, comme le travail même de l'amour et du langage est de donner à une même phrase des inflexions toujours nouvelles. Quel travail est-ce que c'est, Maggie Nelson, que de dire « je t'aime » ?
I think Roland Barthes' point is that
ce que nous dit Roland Barthes, c'est qu'à chaque fois qu'on dit « je t'aime », ben on peut dire « je t'aime, mais je t'aime ». Voilà, donc à chaque fois qu'on dit ces mots, on dit quelque chose de différent. C'est vrai que ce terme n'a pas non plus de fixitude ni de fixité. Comme le dit Wittgenstein, le langage, les mots, ce sont des outils dans une caisse à outils, mais les mots ne vont pas désigner toujours la même chose à tout moment. Donc ce livre, c'est un cri d'amour à Harry, mais aussi à mon fils, à beaucoup de gens, à mes anciens professeurs, à la littérature, à Roland Barthes. Tout le livre est une sorte de longue lettre d'amour à Roland Barthes.
Quelle est la plus belle fois que vous avez dit « je t'aime » ?
C'était sans doute en silence, de façon muette.
Merci infiniment, Maggie Nelson, d'être venue faire un tour dans cette émission. Et merci à votre interprète ce matin, l'insaisissable Eve Dare. Les Argonautes vient de paraître aux éditions du Sous-Sol. C'est un livre éclairant, lumineux, poétique, magnifiquement traduit de l'anglais par Jean-Michel Théroux. Et tout à fait à l'image de l'équipe de Boomerang aussi, la phosphorescente Lola Costantini, que je remercie, l'explosive Valentine Chedebois, le grillon Léonard Billot, la lampe de poche Pierre Martin, le phare Maud Ventura et le briquet Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, la lanterne des médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Oh, comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. Mille sentiers nous parcouraient, mille odyssées à notre porte, les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. et pour seule devise, peu importe. Oh, ça le voyait comme anguille dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois, certains se trouveraient, d'autres pas, mais sans moquer, qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie, toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte, et pour seule devise, peu importe. Mais depuis,
L'attitude, Dominique A sur France Inter, et tout de suite, c'est Sonia De Villard, les médias.